Le magazine de l'info du Bienvenue au magazine des Nations Unies. Deux événements marquent l'actualité cette semaine. D'abord, la participation de toutes les troupes de la MONUSCO aux opérations dans le Nord Kivu, et puis le colloque sur la problématique des originaires et non originaires en RDC, initié par le CNUS et la MONUSCO. Dans la rubrique décryptage d'aujourd'hui, nous allons décortiquer et comprendre le contexte conseil consultatif qui sera avec un membre de l'ONU Femmes RDC. Et quel sera l'apport des nouveaux magistrats qui viennent d'être affectés dans des tribunaux pour enfants? L'invité du jour, justement, nous en parle dans quelques instants.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bon dimanche à tous. Deux nouvelles ont marqué l'actualité cette semaine. D'abord, la participation de toutes les troupes de la MONUSCO aux opérations contre les groupes armés dans l'est de la RDC et pas seulement la nouvelle brigade d'intervention. C'est une affirmation du général Alberto dos Santos Cruz, nouveau commandant des forces de la MONUSCO. Il a dit lors d'un point de presse mercredi dernier à Goma. Jean-Pierre Elali.
Pour le général Carlos Alberto dos Santos Cruz, il n'y a qu'un seul mandat pour les forces de la MONUSCO, c'est la protection des populations civiles. Et pour cela, les casques bleus vont utiliser tous les moyens disponibles. Il le dit au micro de Denise Lukeso, dans des propos traduits simultanément par le colonel Félix Bassé, porte-parole militaire de la MONUSCO.
Il faut bien se rappeler que nous avons un mandat très clair là-dessus. La priorité est donnée à la protection des populations civiles. Nous n'accepterons aucun crime ou des attaques contre les populations civiles, contre le personnel des Nations Unies. Nous allons utiliser tous les moyens disponibles, pas seulement la force d'intervention, mais tous les moyens disponibles pour aller à la poursuite de ceux qui commettent des crimes contre les populations civiles. Il est inacceptable de tolérer les crimes, les viols et les recrutements forcés. Nous allons coordonner nos actions avec les autorités politiques et les forces armées pour mettre un terme à toutes ces violences contre les populations. La question de quand, c'est à partir de maintenant.
Notons que près de la moitié des troupes est composant la brigade d'intervention déployée à Goma. La spécificité de cette brigade est d'ordre opérationnel, précise encore le nouveau commandant des casques bleus. Pour rappel, le général Carlos a commandé les forces de l'ONU en Haïti de 2007 à 2009, avant d'être nommé le 1er juin dernier pour la RDC.
La deuxième actualité de la semaine, c'est le colloque sur la problématique des originaires et non originaires en République démocratique du Congo, qui s'est tenu à Kinshasa du 11 au 13 juin dernier. Le programme des Nations Unies pour le développement et la MONUSCO ont initié et soutenu l'organisation de ce forum, animé principalement par des professeurs de l'Université de Kinshasa et de l'Université catholique du Congo. Honoré Amissena Kalala revient sur les temps forts de ce colloque.
Regardez, quand la FDL est entrée ici, mais on aurait pu ouvrir des écoles pour apprendre le Swahili, parce que ça devenait de façon spontanée comme un critère préalable. Moi, j'ai des amis de chez moi, même des gens plus étudiants au petit séminaire, qui m'ont interdit de les appeler par leur nom, parce que dans leur milieu, ils portaient des noms d'ailleurs, pour voiler leurs origines et adopter celles du pouvoir qui est arrivé.
Un témoignage du professeur Ona Acho de l'Université catholique du Congo, l'un des conférenciers du colloque, qui illustre des pratiques négatives de la politique de l'identité en RDC. Pendant les trois jours de ce forum, conférenciers et participants ont multiplié les exemples de la problématique des originaires et des non-originaires en République démocratique du Congo. Ils ont notamment mis en évidence le rôle négatif des acteurs politiques. Et pour le professeur Eric Yambokolo, autre conférencier de ce colloque, la question des originaires et des non-originaires et les conflits qui peuvent apparaître risquent de mettre le pays à feu et à sang. Parler la même langue, partager les mêmes coutumes matrimoniales n'est pas en soi négatif, dit-il. Il y a problème lorsqu'on en fait une utilisation politique pour discréditer et exclure les autres. Alors, au nombre des recommandations pour éliminer ce risque, les participants au colloque estiment que les identités de base, au niveau tribal, ethnique ou régional notamment, exigent une identité nationale. Félix Mbokolo.
Il faut donc encourager cette identité nationale par toute une série de mesures sur le plan de l'éducation, sur le plan de la carte d'identité, sur le plan de la libre circulation des gens, en considérant que les gens ne sont pas seulement originaires de leur village ou de leur territoire, nous sommes tous originaires de la République démocratique du Congo.
Le PNUD et la MONUSCO, partenaires d'appui technique et financier de ce colloque, se disent pour leur part disposés à poursuivre l'initiative. Messieurs Aki Atien, directeur de la section affaires politiques de la MONUSCO.
Il va être mis en place un comité scientifique avec le professeur Noël Obotela. Ce comité va élaborer maintenant ce qu'on appelle les actes du colloque sous forme d'ouvrage. Le PNUD a mis de l'argent de côté pour financer la sortie de cet ouvrage. Une fois qu'il est sorti sur verge, nos collègues universitaires de Kinshasa vont maintenant se donner le devoir de faire la répétition au niveau provincial. Et nous avons, avec le PNUD, conçu un programme. Le programme va donc consister à des déplacements dans les 11 provinces. Et nous souhaiterons vivement que ces déplacements se situent avant éventuellement les prochaines consultations électorales.
Magazine des Nations Unies, décryptable.
L'ONU Femmes RDC va se doter bientôt d'un conseil consultatif de la société civile. Conseil consultatif, que veut dire exactement ce concept? Eh bien, c'est ce que Honoré Nifinga et Franck Amunga, chargés de la communication et de la mobilisation des ressources à l'ONU Femmes RDC, vont nous expliquer tout de suite.
Franck Amunga, bonjour.
Bonjour, Honoré.
L'ONIFAM a lancé un appel d'offres pour la mise en place d'un comité consultatif de la société civile en République démocratique du Congo. C'est quoi le comité consultatif de la société civile?
L'ONIFAM a lancé un appel d'offres pour la mise en place d'un conseil consultatif de la société civile. Le conseil consultatif constitue pour nous un organe stratégique qui constitue non seulement une partie de la programmation de l'ONIFAM, mais aussi une façon de faire participer la société civile à notre programmation et à la fonction de nos priorités climatiques.
Alors, qu'est-ce qui a motivé l'ONIFAM à pouvoir mettre en place une telle structure?
L'ONIFAM a une façon d'opérer qui inclut de façon substantielle la société civile. La motivation, c'est effectivement d'améliorer la participation de la société civile à la définition des priorités de l'ONIFAM en termes d'intervention. Tout ce qui importe pour le pays, cela doit être défini avec la société civile.
Quelles sont ces priorités?
L'ONIFAM intervient en 5 thématiques prioritaires qui sont la participation politique et le leadership féminin, la lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre, l'autonomisation économique de la femme, la gouvernance, la paix, la sécurité, et enfin la planification et la budgétisation sensible aux genre. Et ça, ce sont des programmes qui sont prioritaires, mais qui sont au niveau macro. Pour les mettre en œuvre, nous définissons des politiques et des projets à travers lesquels nous atteignons ces objectifs. C'est à travers tout cela que nous impliquons la société civile au niveau de la conceptualisation et au niveau de la mise en œuvre.
Mais Franck Amunga, quelle va être la nature du conseil consultatif de la société civile?
Je crois qu'il est très important pour nous de définir très clairement la nature de ce conseil consultatif parce que cela peut donner lieu à confusion si les gens n'ont pas une meilleure compréhension. Il faut d'abord dire que le conseil consultatif est un corps volontaire, ça veut dire que ce n'est pas un travail payant, mais c'est plutôt un corps qui constitue un ensemble de techniques, un ensemble d'experts qui ont acquis au fil de leurs activités, au fil de leur profession, un certain niveau d'expertise dans au moins 2 thématiques prioritaires que je venais de citer tout à l'heure, dans lesquelles nous sommes travaillés.
Parlons maintenant de la composition de cette structure, et ça a composé de combien d'agents venant d'où?
Nous avons eu des réunions préparatoires avec plusieurs organisations, la société civile et organisations féminines, avant d'en arriver là. La composition peut varier d'un pays à un autre, mais la RDC a ses spécificités. Suite à ces consultations que nous avons eues 3 fois de suite avec les organisations de la société civile, nous sommes arrivés au point d'en en définir 15. Ça veut dire que les 11 experts viendront des 11 pays de la RDC, plus 4 experts qui viendront de Kinshasa. Et cela inclura sûrement les membres des organisations de la société civile, inclut les églises, les instituts de recherche, les universités, ainsi de suite. Mais je tiens à le préciser, ces personnes sont sélectionnées en fonction de leur expertise et au sein du conseil ne représentent pas leur organisation. Donc ils sont au niveau du conseil à titre individuel et en fonction de leur expertise.
Ça va être une structure permanente ou alors ça va limiter dans le temps?
En principe, le conseil consultatif est sélectionné pour 2 ans par mandat. Et après les 2 ans, on va encore reconstituer le conseil. Et à moins, pour des raisons de continuité, on va se rassurer qu'un certain nombre de pourcentages de membres du conseil continuent à œuvrer pour l'année qui suit. De toute façon, on sait que les nouveaux membres du conseil qui viennent ne trouvent pas un terrain vide, mais plutôt acquièrent l'expérience dont a bénéficié le conseil précédent.
Et ces membres, quel va être leur statut? Est-ce que ça sera des staff onusiens?
Absolument pas. Les membres qui seront recrutés pour le conseil consultatif le sont à titre individuel. Ils ne sont pas employés comme agents des Nations Unies ou comme agents de l'ONUSAM, mais ils prêtent pour le compte de la nation parce qu'ils sont pour prêter leur expertise. De façon à ce que la programmation que l'ONUSAM fait, la définition des priorités d'intervention, ne soit pas quelque chose qui se fait seulement au niveau du siège ou au niveau de tout ça, mais que cela prenne en compte les réalités locales.
Avec ce statut-là, ce sera un partenariat horizontal, vertical?
Je dirais à la fois vertical et horizontal. Vertical, c'est parce que au niveau des concertations, nous le faisons égal à égal. Ça veut dire que c'est des experts pour lesquels on a beaucoup de considération, avec qui on collabore, même titre que des experts ici, que l'on consulte dans plusieurs activités que l'on fait. Mais horizontal aussi, parce que le reflet de ce que nous faisons au niveau du bureau de Kinshasa doit tirer sa substance, ses réalités locales.
En Kamunga, vous pensez que c'est dans combien de temps que le conseil consultatif de la société civile à même de ce peut être fonctionnel?
Logiquement, nous avons convenu avec tous les partenaires qui ont participé à nos réunions de concertation que l'appel va durer 1 mois. Autrement dit, l'appel va courir jusqu'au 5 juillet. Donc c'est après le 5 juillet qu'il y aura un jury indépendant qui est constitué de un total de 9 personnes, dont 4 experts qui vont venir de différents milieux scientifiques. Il y aura 2 délégués à la société civile et 3 délégués des agences des Nations Unies à travers le One UN Gender Team, qui est un groupe de travail des Nations Unies sur le genre. Donc ces 9 experts vont constituer un jury de sélection qui va travailler sur les candidatures reçues à partir du 5 juillet, quand on va clôturer, parce qu'on sait qu'on arrive à la constitution du conseil consultatif durant au moins la première ou deuxième quinzaine du mois de juillet. Nous espérons vraiment que ça commence bien à partir du 1er août plus tard, le conseil consultatif sera fonctionnel.
Merci.
En bref, sachez qu'il y a un nouveau représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC. Il s'agit de Martin Kloberg, de nationalité allemande. Ban Ki-moon a nommé le successeur de Roger Nice lundi 10 juin dernier. Kloberg est actuellement le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Irak. Au Nord Kivu, 5500 ménages déplacés des sites Mugunga 1, Mugunga 3, Lac Vert et Boulengo dans la périphérie de Goma reçoivent du PAM des matériels pour cuire la nourriture. C'est là dans le cadre du programme Vivre contre travail du PAM. Avec ces produits, ces déplacés bénéficieront pendant 4 mois de rations alimentaires. Et puis la FAO veut combattre la malnutrition et l'insécurité alimentaire à Lomela, au Kasaï oriental. Dans le cadre de ce projet, 24 techniciens et leaders d'ONG de cette province ont suivi une formation de 5 jours sur les techniques de multiplication des semences du hier et des boutures saines de manioc.
Magazine de la Chance.
39 nouveaux magistrats viennent d'être affectés dans 10 des 11 provinces que compte la RDC, ce qui porte à 54 les effectifs des juges encore affectés. Quels changements ces nouvelles affectations vont-elles apporter dans le fonctionnement des tribunaux pour enfants? Alou Maïga, manager gouvernance des systèmes sociaux, répond à Jean-Pierre Elali.
Alou Maïga, bonjour.
Bonjour.
39 nouveaux magistrats viennent d'être affectés dans 10 des 11 provinces qui comptent la RDC.
Oui.
Ce qui porte à 54 les effectifs des juges affectés.
Oui.
Alors, qu'est-ce que c'est un juge d'enfant, M. Maïka?
Un juge d'enfant est un juge qui est affecté au tribunal pour enfants, qui est une institution qui a été créée par la loi 09 du 10 janvier 2009. Donc, ce juge pour enfants, il a la compétence de traiter les dossiers des enfants en conflit avec la loi, c'est-à-dire des enfants qui ont des problèmes avec la justice, comme on dit, et aussi il a la compétence de protéger les enfants contre toutes sortes de brimades, d'exploitation.
À quoi diffère alors sa fonction de celle des autres magistrats?
C'est un juge spécialisé sur les questions des enfants.
Et les autres ont fait pour les faire?
Les autres l'ont fait quand les tribunaux n'existaient pas, notamment les juges des tribunaux de paix. Avant l'adoption de la loi, ces magistrats-là avaient dans leur portefeuille, dans leur travail, la question des enfants. Et comme à côté des enfants, ils ont d'autres dossiers, donc il y a des tribunaux spéciaux qui ont été créés, et ces juges spécialisés, j'insiste bien là-dessus, spécialisés sur les questions des enfants, travaillent uniquement sur les questions des enfants, pas d'autres dossiers.
Donc, ils ne traitent pas les dossiers des adultes.
Ils ne traitent pas les dossiers des adultes.
Alors, vous parlez des 54 juges pour enfants. Est-ce suffisant, M. Maïga, pour un pays aussi vaste que la RDC?
Avant de répondre à la question, j'aimerais que vous compreniez un peu l'évolution. Et je pense que dans le communiqué qui a été publié par l'UNICEF, on a dit que c'était une bonne direction qu'avaient prise les autorités. En 2009, il n'y avait pas de juge spécialisé pour enfants. En 2011, le gouvernement a affecté 12 juges pour enfants. Et en 2013, il y en a 54. Mais il y a une nette progression. Comme vous l'avez dit, ce nombre reste insuffisant. Si on doit avoir un tribunal dans chaque grande ville du pays, ça sera à peu près 175 tribunaux.
Donc actuellement, il y en a combien?
Actuellement, il y en a 15.
Il y en a 15. C'est peu.
C'est vraiment peu. Donc il y a encore du travail à faire. Mais il faut saluer les efforts qui ont déjà été accomplis par les autorités.
Et là, je pense avec l'accompagnement de l'UNICEF.
Oui, bien sûr. Parce que les premiers tribunaux qui ont été mis en place, l'UNICEF a fortement contribué.
Comment?
Nous avons contribué d'abord à l'adoption de la loi, à la signature des mesures d'application et de la loi. Après du plaidoyer, que les 7 premiers tribunaux soient opérationnels. Nous avons contribué fortement à former les 12 premiers juges pour enfants qui ont été acquittés, et avec les autres partenaires comme la MONUSCO qui a aidé les juges à regagner leur poste.
Monsieur Maïga, qu'est-ce qui va changer réellement avec l'affectation de ces 54 magistrats dans la procédure judiciaire applicable aux enfants?
Ici, la philosophie est la protection de l'enfant. Ça, c'est vraiment important. C'est la protection de l'enfant. Quel que soit le fait que commet l'enfant, le manquement que commet l'enfant, il faut le prendre d'abord comme un enfant. Donc le législateur congolais a pensé qu'il faut protéger son enfant.
Donc il faut avoir pitié des enfants, même s'ils ont commis de crimes, par exemple.
Ce n'est pas en termes de pitié, mais c'est en termes d'encadrement de l'enfant. C'est un être qui est en pleine évolution et qui a besoin d'être protégé, qui a besoin d'être guidé. Donc il y a des mesures qui sont prévues par la loi pour ceux qui ont commis des manquements qui sont graves. Mais comment les traiter? Pour ceux qui ont fait moins, comment les traiter? Donc, il dit que ce n'est pas qu'on laisse tout tomber, mais il y a quand même des mécanismes qui sont mis en place pour permettre à l'enfant de revenir dans la société comme un adulte normal. Au jour d'aujourd'hui, après les 7 premiers tribunaux, qui étaient dans les différentes provinces, on a 10 provinces qui ont des tribunaux, ou qui vont avoir des tribunaux qui vont être opérationnels. Il reste une province, c'est la province du Maniema.
Pourquoi avoir oublié le Maniema comme ça?
Non, le Maniema n'a pas été oublié. Je pense que le dossier en cours pour le premier tribunal du Maniema.
Et quels sont les garde-fous pour ce nouveau magistrat dans le système judiciaire, comme on le sait, gangrené par la corruption?
Nous, en tant qu'organisation, nous accompagnons le gouvernement dans la mise en place des mécanismes de contrôle, des mécanismes d'accompagnement. Donc, pour ce qui concerne ces juges, nous avons travaillé à leur formation, au partage des questions, des principes d'éthique et de déontologie sur la question de protection de l'enfant et sur la question de gestion. Je pense aussi que pour le gouvernement, il y a des mesures d'accompagnement qui sont prises pour assurer que tous les magistrats font correctement leur travail. Pour nous, nous pensons que ces juges pour enfants vont aussi être contrôlés, comme tout le monde. Et l'autre chose aussi qu'il faut dire, c'est que la population, c'est-à-dire le bénéficiaire du service, doit aussi être actif lorsqu'il sent que ses droits ou ses intérêts ne sont pas respectés. Nous permettons à ces tribunaux de fonctionner correctement en termes d'infrastructure réhabilitée, en termes d'équipements mis à la disposition des magistrats, en termes aussi de possibilité de mener leurs activités en dehors de leur bureau. Il faut dire que le système de justice en tant que tel en RDC, c'est un système qui est plus ouvert. Nous avons le magistrat qui est l'acteur principal. Et à côté du magistrat, il y a les assistants sociaux. Il y a aussi un comité de médiation qui est mis en place, qui est créé par la loi, pour traiter tous les dossiers.
Vous parlez des assistants sociaux, est-ce qu'ils existent, ils sont opérationnels?
Oui, pour les 7 premiers tribunaux qui ont été mis en place, les comités sont opérationnels, les assistants sociaux ont été affectés. Même dans certaines provinces, il y a eu une anticipation où des comités de médiation ont été créés près des tribunaux de paix. Donc c'est vrai, nous parlons du juge, mais le juge n'est pas le seul acteur, il y a d'autres acteurs qui sont autour de lui.
Pour terminer, M. Maïga, vous avez parlé de l'accompagnement officiel de l'UNICEF en ce qui concerne l'affectation des juges. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets de cet accompagnement à travers le pays?
Oui, les 7 premiers tribunaux qui ont été mis en place, le tribunal que nous avons réhabilité avec des ressources qui nous ont coûté le plus cher, c'était le tribunal de Mbandaka. Et nous avons contribué à la formation des juges, des assistants sociaux et du personnel judiciaire.
En termes chiffrés, c'est combien?
En termes chiffrés, c'est autour de 30 000 dollars. Les 7 premiers tribunaux, nous avons contribué à l'opérationnalisation de ces tribunaux. De Kinshasa à Kikwi, Lumumbashi, Ituri, Nord Kivu, donc Goma, en passant par Mbandaka, tous ces tribunaux-là ont bénéficié de l'appui matériel direct de l'UNICEF.
Est-ce que vous avez un dernier mot?
Oui, le dernier mot, c'est exhorter tout le monde autour de la question des tribunaux pour enfants, donc le système de justice pour enfants. Parce que c'est un système qui est dans la philosophie de réparation, de réhabilitation de l'enfant, que de sanctions. Je veux également exhorter le gouvernement à poursuivre ses efforts, parce que nous sommes déjà partis d'1.0 à 1.54, mais il y a encore beaucoup à faire.
Monsieur Maïga, je vous remercie de votre disponibilité.
Je vous remercie aussi.
Le Maniema nous offre ce dimanche la nouvelle de province, la MONUSCO Kindu. En collaboration avec la société civile, a réussi à réconcilier deux groupements dont les habitants vivaient à couteau tiré depuis 2 ans et demi. Ils ont fini par signer un accord de paix la semaine dernière à Elundu, une localité située à 34 km de la ville de Kindu. C'était en présence de quelques députés provinciaux de ce lieu. Le point avec M. Elisa Chamboui.
C'est dans cette ambiance de joie et devant un grand public venu pour la circonstance que les représentants de ce groupement ont signé le calmer de la tour. Ils doivent désormais vivre contre les peurs, comme dans le passé, a dit l'un des chefs de groupement en Swahili.
Il est chef de localité qui est dans le groupement qui est là. Il y a des gens qui sont dans le Simuka, qui sont là pour moi, 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 qui sont là pour
moi. Il est vrai que le groupement d'un pan de Makola dans le territoire de Kailo et celui de Kintalo dans le territoire de Mpangi ont commis des atrocités depuis le 13 septembre 2010. Ces atrocités ont coûté la vie à 2 membres de la famille Makola. Et depuis tout ce temps, le courant n'est pas séparé entre les deux groupements. Mais aujourd'hui, grâce à la MONUSCO et la société civile du Maniema, ils viennent de signer des accords de paix. La cérémonie a eu lieu mercredi 3 juin dernier à Elundu. Le chef de collectivité Osongo, la Frédéric Mbavumoya Boutikila, donne lecture du dit accord.
Nous, anciens et notables, de deux groupements, Mpande et Kinkalu, tenant compte des accords conclus, facilités par la MONUSCO Kindu et la société civile du Maniema, nous confirmons avec toute assurance qu'il n'y aura plus ni la guerre, ni de disputes, ni querelles, ni menaces de personnes entre nous. Désormais, les habitants de ces deux groupements vont commencer à se fréquenter, se parler, vivre en harmonie comme dans le passé entre frères et sœurs.
La cérémonie s'est clôturée par un match qui a opposé les équipes de ces deux entités, 1-0 en faveur de l'équipe de Makola. La MONUSCO a pour cette circonstance remis des varèses, des ballons et des petites enveloppes aux équipes. Kindu, Mathieu Longachon, Bourmane sur Radio Okapi.
Merci Mathieu, restez avec nous pour découvrir un fonctionnaire des Nations Unies.
Magazine de la Sorbonne. Portez vision.
Je m'appelle Idesbal de Chinamoula, Vuningoma. Je suis marié, père de 5 enfants, 3 garçons, 2 filles. Je suis licencié en sciences économiques appliquées, pratiquement à cheval entre l'économie appliquée et l'économie pure. Je suis au PNUD, je travaille comme conseiller national en charge des questions environnementales et changement climatique depuis 4 ans. Mon travail quotidien consiste justement à analyser, à suivre ce qui se passe au niveau international, à communiquer, à faire le relais au niveau du pays sur les questions, les débats, les grands débats, les grandes discussions sur les questions environnementales, à partager ça au niveau du pays et bien sûr à faire aussi les relais au niveau du pays pour partager au niveau international. mon travail au quotidien consiste justement à être au fil de l'actualité, au fil de l'eau, sur ce qui se passe et partager ça. Et essayer aussi d'apprendre auprès des petites communautés tout ce qu'on peut faire de bien, capitaliser les bonnes pratiques. Avant d'arriver au CNUD, j'ai travaillé sur le terrain, j'ai été un homme de terrain, je le suis toujours, mais j'ai beaucoup voyagé ici au Congo, dans toutes les provinces de la RDC, dans la plupart des territoires. Je faisais les études d'impact socio-économique et environnemental. En tant qu'universitaire, j'ai toujours pensé que on doit être soi-même entrepreneur. C'est vrai que j'ai été administratif, j'ai un petit bagage d'expérience là-bas, mais je ne suis pas resté longtemps, je suis parti parce que je voulais effectivement travailler pour moi-même et travailler davantage. Je sens toujours qu'il y a quelque chose de très important qu'on peut apporter et j'aimerais bien me rapprocher des personnes et les assister. J'ai fait des études, des projets, j'ai participé à la formulation de plusieurs projets qui ont effectivement aidé à changer les conditions de vie dans les populations, dans les zones rurales. Mon temps libre, comment je le gère, je pense que la famille m'apporte beaucoup d'équilibre par rapport à mon travail. J'ai besoin de me ressourcer auprès de ma famille, j'ai besoin de sentir l'affection des miens et de vivre ça, de partager. Donc quand je suis libre, je passe le plus clair de mon temps en famille, avec ma femme et mes enfants. Ça m'apporte beaucoup de bonheur, ça me fait beaucoup de bien. Et je pense que pour ça, je ne partage ça avec personne. Je suis aussi engagé dans la moisson, je suis un serviteur de Dieu, donc je travaille beaucoup pour le Seigneur et une bonne partie de mon temps, je le passe aussi à servir les autres et à témoigner. Mes préférences, c'est la musique, ma femme est artiste, elle est musicienne, je suis à ses côtés, donc j'apprends à chanter. Je ne savais rien chanter, mais aujourd'hui je fais de la musique, je suis très heureux et pour beaucoup d'ailleurs, je suis une référence dans la musique. Donc ça me fait plaisir, c'est une valeur ajoutée de mon mariage et de tout le travail que j'ai fait en dehors de mon travail professionnel. J'aime bien manger le fondu, j'aime aussi manger un peu le ngaï ngaï et bien sûr accompagner des bananes, un peu de choses. Projet d'avenir, j'aimerais bien me professionnaliser davantage dans ce que je fais. Nous avons beaucoup de défis dans notre pays, dans le monde. Et je n'aime pas trop rester amateur. J'aimerais bien être professionnel pour vraiment aider à apporter des choses concrètes, des choses qui peuvent aider les gens qui sont en difficulté. C'est vraiment un fardeau et j'ai toujours pensé que j'ai des choses importantes que je peux apporter. Mais il faut le faire de manière professionnelle. Il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas tâtonner. Mais aussi, comme je l'ai dit, c'est ma famille, mes enfants. Il faut les soigner, il faut du temps pour eux. Il faut vraiment investir ce qu'on peut faire le meilleur pour aider ses enfants, pour qu'ils soient aussi des hommes qui réussissent demain. Quand on veut construire le demain, c'est à la fois travailler pour le développement comme nous le faisons dans les projets, mais aussi investir pour ses enfants qui vont prendre le relais demain ou après-demain. Merci.
À présent, nous passons le micro à un auditeur pour poser sa question.
Magazine de Nations Unies, le son des Nations Unies.
Bonjour, magazine des Nations Unies. Je m'appelle Roland Lokiambola. Je suis de Bouillard, dans les bas-fleuves. Je n'ai pas d'emploi. J'ai une question à poser. Depuis maintenant 5 ans que M. Jean-Pierre Bemba est à la CPI, à quel niveau se situe maintenant son procès? Merci beaucoup, c'est ça ma préoccupation.
Merci à vous pour cette question dont la réponse intéresse également plusieurs personnes. Suivons.
Alors, le procès de M. Jean-Pierre Bemba est dans la phase de présentation des éléments de preuve à décharge. Cela voudrait dire que ce sont les avocats de M. Jean-Pierre Bemba qui sont en train de présenter les preuves, sont en train de faire appel à des témoins pour démontrer que M. Bemba ne serait pas responsable des accusations portées contre lui par le procureur de la Cour pénale internationale. Il faut rappeler que le procureur, lui, avait déjà présenté ses éléments de preuve soutenant les accusations contre M. Jean-Pierre Bemba. Donc maintenant, ce sont les avocats de M. Bemba, c'est à leur tour de présenter ce qu'on appelle les éléments de preuve à décharge. Le procès pénal a deux temps forts. Le premier temps où c'est le procureur, celui qui accuse, qui présente les éléments de preuve. Le deuxième temps, ce sont les avocats maintenant qui présentent présente lors des demandes de preuve pour dire que notre client n'est pas responsable des accusations. Et éventuellement, les juges peuvent également, s'ils le veulent, appeler les témoins experts. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des victimes qui participent aux procédures par l'intermédiaire de leurs avocats. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que pour le moment, ce sont les avocats de M. Jean-Pierre Bemba qui présentent leurs éléments de preuve, qui font appel à leurs témoins, qui viennent dire devant les juges que les accusations portées contre M. Bemba par le procureur ne tiennent pas et que M. Bemba n'est pas responsable. Et il y a les procureurs qui contre-interrogent également les témoins de M. Jean-Pierre Bemba.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les conseillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capitaine.
À vos carnets et vos stylos pour noter les rendez-vous de la semaine. Ce 20 juin, l'UNICEF et le ministère de l'Intérieur vont remettre du matériel pour l'enregistrement des enfants à l'état civil, précisément dans la commune de Maluku. Le deuxième rendez-vous, toujours le 20 juin, c'est avec le HCR qui célèbre la Journée internationale des réfugiés. Et bien, c'est par ici que s'achève ce magazine. Merci à vous de l'avoir suivi. Mireille Boukassamoutendi était au micro. Il a connu la participation de Nicole Ndaka, Jean-Pierre Elahi, Coco, Honoré Missinga. Et merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez le réécouter ce même dimanche à 19h03 ou sur notre site internet www.radiocapi.net. Okay.